Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef Voilà sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Les exploits du chef avec l'équipe. Bonjour, bienvenue. Selma est avec nous. Sabine Selma, journaliste et gourmet. Et gourmette. Et gourmette. Manuel Mariani, un CV long comme le Larousse gastronomique.
Oh, bah, vous exagérez. Ah, vous me faire rougir à chaque fois.
Alors, j'ai votre signature, dites donc, il faut 8 jours pour aller votre signature, Manu.
C'est ça.
En tout cas, vous êtes journaliste et critique gastronomique.
Ah, oui, c'est bien résumé.
C'est que nous partageons avec vous de temps en temps des histoires de personnes qui ont changé de vie, qui se sont convertis, reconvertis. En tout cas, c'est le cas de notre invité aujourd'hui.
Pas à l'islam, on précise, même si
ça, à la cuisine, ça peut exister aussi. À la cuisine, on verra. Essentiellement avec Karim Haïdar, qui est notre invité. Bienvenue.
Bonjour.
Et vous, vous étiez avocat, en fait.
J'étais juriste, effectivement.
Mmh. Et vous avez mal tourné.
Je suis sorti du droit chemin, on peut le dire.
Bien.
Ou du droit tout court, même.
Quel était le déclic pour vous? Pourquoi avoir fait tout ce parcours, toutes ces études, pour finalement changer de vie?
En fait, ce qui est sympathique, c'est qu'il n'y a pas de vrai rapport entre les deux métiers, sauf la passion pour moi. Et je n'ai pas quitté un métier parce que je le trouvais horrible. C'est au contraire, j'étais passionné de droit et j'ai beaucoup travaillé dedans, à la fois donc comme juriste en cabinet d'avocat, comme enseignant, j'ai enseigné le droit. Et je l'ai quitté en fait à un moment de grande fatigue, au bout de 10 années d'exercice, pour une année sabbatique. Et comme je le dis toujours, je suis toujours en année sabbatique. Je ne l'ai absolument pas quitté pour faire de la cuisine. Je l'ai quitté momentanément. Mais sauf que je ne suis toujours pas revenu parce que je me suis découvert une autre passion.
Vous êtes perdu dans la cuisine.
Voilà. Et je me suis perdu dans la cuisine, comme le dit Manu.
Mmh. Bah, c'est un bel égarement.
On peut le dire.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi la cuisine dès le départ?
Je pense que c'était je pense que je ne savais même pas que c'était possible de faire de la cuisine. J'ai toujours aimé la cuisine depuis l'âge de 7-8 ans. J'ai commencé à faire mes petites recettes. J'ai toujours adoré traîner, puisque chez nous au Liban, la cuisine était la chose des femmes. Donc j'ai toujours traîné entre les jupons dans les cuisines. Mais je ne me suis jamais posé la question. À l'époque, on était encore à une époque où on considérait pas que la cuisine était un métier, un véritable métier.
Oui, on voit sa maman cuisiner, on se dit maman, c'est pas un métier, donc cuisiner, c'est pas un métier non plus, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais c'est une lutte que nous menons actuellement pour remontrer que la cuisine est un métier, même dans le monde arabe, et devrait l'être dans le cadre de l'Académie de cuisine du monde arabe que j'ai créée avec plusieurs autres personnes. Et en fait, c'est pour cela sans doute que je n'ai pas commencé dans la cuisine. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ça pouvait être un métier intéressant, un métier noble, un métier passionnant, et qu'on pouvait s'y mettre. Et c'est pour ça que je suis sans doute arrivé à la cuisine sur le tard, et j'en suis personnellement ravi, car je ne peux souhaiter de mieux à qui que ce soit que de changer de carrière en cours de route.
Et sur le tard, ça fait quel âge, pour que les gens comprennent bien?
Une trentaine d'années.
Oui.
Karim, quand est-ce que vous avez su que c'était ça que vous vouliez faire, et qu'il fallait vraiment dire au revoir à votre carrière de juriste? Et comment?
En fait, c'est très drôle. C'est arrivé en deux étapes. La première va vous montrer un peu l'insécurité d'un Libanais parti de son pays par la guerre. Je faisais des études de droit en France, donc, et à un moment, je sais plus, vous savez, avec le temps, on ne sait plus qu'est-ce qui nous a mené vraiment. Et pendant mes troisième cycles de droit, je me suis inscrit au CAP de cuisine. J'avais une vingtaine d'années, 22 ans, je crois, et quand on m'a dit pourquoi, je leur ai dit, vous rendez compte, s'il y a la guerre en France et qu'on s'exile avec un diplôme de droit français, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en Australie, alors qu'avec un diplôme de cuisinier français, là, je vais réussir ma vie.
On peut réussir partout.
C'est voilà, donc il y avait sans doute cette insécurité de quelqu'un qui a été un peu, que la vie a un peu malmené gentiment, enfin, beaucoup plus gentiment que d'autres, en le faisant partir ailleurs. Et j'avais toujours sans doute cette peur de l'ailleurs. Donc ça a peut-être démarré un petit peu comme ça. Après, ça a été l'envie, bien sûr, de partager. Ma table était toujours ouverte lorsque j'étais juriste. Je faisais des repas aux amis tous les jours, parce que c'était véritablement...
Vous faisiez la main sur les copains, c'est ça ?
Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas eu véritablement un changement d'un métier à l'autre. Ça a été un moment vraiment là, on va dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui le burn-out dans le métier du juriste, enseignant, etc., qui a fait que je me suis arrêté. Et à l'arrêt, à un moment, sans doute parce que je suis actif, au bout de 2 mois, je me suis dit, bon, ben maintenant, je fais quoi ? J'ai ouvert un restaurant.
Et c'était la première aventure, c'était avec le Lisa, c'est ça ?
Non, c'était bien avant, c'était un restaurant que j'ai appelé d'ailleurs, que j'ai ouvert dans le 6e arrondissement de Paris.
Ah, carrément, vous Karim, vous ouvrez un restaurant direct ?
J'ai ouvert un restaurant directement.
Mais c'est comme Claude Colliot qu'on a reçu récemment, qui nous expliquait la même chose.
Et je ne savais pas faire grand-chose, d'ailleurs, j'ai découvert après que je ne savais pas faire grand-chose, sinon j'aurais pas ouvert le restaurant.
Il y avait quoi à la carte ?
Ça s'appelait l'automne à Pékin. Avec en dessous comme
alors,
nom.
Il faut expliquer
c'est
pourquoi.
Très recherché, ouais.
Alors, un l'automne à Pékin, c'est un livre de Boris Vian.
Ah ben très bien. Voilà. Enfin.
Voilà. Et donc, il se balade dans un monde qui n'existe pas.
Voilà.
Et dans un désert, c'est l'Exopotamie ou quelque chose comme
exactement.
Ça.
Exactement.
C'est l'absurde.
Exactement. Et c'est pour ça que mon restaurant devait s'appeler l'automne à Pékin, parce que c'était un restaurant libanais à l'époque. Mais qui ne ressemblait pas aux autres restaurants libanais, puisqu'il n'y avait pas les sempiternelles, mezze grillades, etc. Il y avait juste une cuisine du marché, 2 entrées, 2 plats, 2 desserts qui changeaient tous les jours. Et d'ailleurs, le deuxième nom, juste en dessous, à coller pour préciser, c'était Taverne Libanaise. Donc c'était l'automne à Pékin, Taverne Libanaise, avec une 60aine de vins au verre. Donc vraiment quelque chose...
C'était il y a combien de temps ? Parce que la mode des vins au verre, c'est quand même quelque chose qui est... un peu plus récent.
C'était quand même il y a 18 ans.
Ouais, donc vous étiez un peu précurseur, parce que c'est vrai que les vins au verre, il y a 18 ans, on n'en trouvait pas partout.
Voilà, les gens rentraient et s'étonnaient d'ailleurs, puisqu'on avait une très belle carte de vin au verre, et les gens me disaient, mais comment vous faites pour pas perdre ? Et je leur disais, bien sûr, j'oriente les clients, et les bonnes bouteilles que vous me faites ouvrir, je les finis, et donc je suis ravi, tout va bien. Économiquement, je suis pas sûr que ce soit très bien, mais pour le plaisir, c'était très bien, on découvrait, on partageait. La seule problématique, c'est que tout le monde, Philippe, n'était pas comme vous, et même
tout le monde pensait que c'était un restaurant chinois.
Tout à fait. Et on me demandait des nems en rentrant. Et c'était assez complexe. Je croyais pourtant qu'à Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian était connu.
Il y avait des traces encore.
Voilà, il y avait le tabou à...
Le cabaret, le tabou.
À 20 mètres. À 20
que
mètres
Manu a bien connu. Manu a fait...
Absolument. On a passé quelques soirées ensemble avec Philippe.
Il était à 20 mètres, en fait, du restaurant. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était une évidence. Ça ne l'a pas été pour les autres. Et j'ai dû rapidement changer de nom. Je l'ai appelé, pour le coup, désespéré au 29, puisque c'était l'adresse. Il était 29 rue Dauphine.
Est-ce que ça a mieux marché?
Parce que j'allais vous demander pourquoi il figurait pas sur votre biographie, sur votre site. En fait, c'est parce qu'il figure sous le nom de O29.
Voilà, tout à fait. Il figure sous le nom de O29. Et même, j'ai dû même retirer, parce que comme je faisais une cuisine libanaise, totalement atypique, je me faisais quasiment enguirlander par les clients, je me bastaillais avec eux, je me disputais parce qu'ils m'expliquaient qu'il n'y avait pas de poisson au Liban. Je leur disais, mais c'est bizarre, c'est quand même une longue côte, je ne sais pas pourquoi vous avez trouvé ça. Vous savez, il n'y a pas de chameau ni de désert au Liban, mais bon. Et je me disputais beaucoup avec eux, ce qui fait que j'ai fini par appeler ça aux 29 cuisines du marché, bien sûr en continuant à servir exactement la même chose.
Ouais.
Et c'est là que ça a démarré.
De l'importance peut-être du nom d'un établissement finalement.
Tout à fait.
C'est fou ça.
Tout à fait.
Quelle est la première phrase de l'automne à Pékin ?
Ça je ne saurais pas le dire.
On peut concevoir n'importe quelle solution.
Elle
est très connue cette phrase. Elle fait partie des incipits très connus. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez le sens de l'absurde ?
Sûrement un petit peu, oui.
Pour un cuisinier, c'est intéressant, ça.
Sûrement un petit peu. Je pense d'ailleurs que toutes les aventures, les belles aventures, démarrent par une envie d'absurde, de quelque chose de tellement différent qu'il n'est pas dans ce qui nous entoure au quotidien. C'est une envie de sortir de ce qui nous entoure au quotidien, mais de sortir par du beau. L'absurde, pas dans le sens destructeur.
Non, bien sûr.
Dans le sens, au contraire, très positif. Et je pense souvent, d'ailleurs, que c'est... Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on croit absurdes. J'en parle souvent parce que je ne conduis pas. Je n'ai pas le permis de conduire. Je n'ai jamais voulu conduire. Et lorsque j'avais, il y a très longtemps, une 12aine d'années, j'ai expliqué que jamais je ne conduirai, car un jour, on rentrera dans la voiture, on lui dira où aller, et elle nous emmènera. À l'époque, c'était considéré comme totalement absurde.
Vous êtes le Jules Verne de la cuisine un peu, c'est ça?
Pas vraiment, mais j'aime bien faire
le Jules Verne des fourneaux.
Mais je pense que beaucoup de gens rêvent de ça, mais simplement ils ne l'expriment pas.
Oui, mais beaucoup de cuisiniers sont des rêveurs d'ailleurs, c'est ce tout qui leur fait. Permet d'être créatifs en cuisine, c'est important.
D'ailleurs, dans votre cuisine, dans tout ce que j'ai lu jusque-là, la cuisine libanaise, elle est là où on s'y attend le moins.
C'est-à-dire?
Dans le sens où, quand je regarde un petit peu le long des restaurants, même le décor, même, on parlera un petit peu du dernier né, le Askini, tout à l'heure. Mais elle est là, mais quand on s'y attend le moins, on lit déjà la carte, mais la touche libanaise, elle est toujours vers la fin. C'est comme un petit clin d'œil. Mais dans l'ensemble, on n'a pas l'impression qu'on rentre dans un Libanais, en fait.
C'est vrai parce que je pense qu'on a. J'ai toujours voulu et je me suis battu. Pour faire sortir la cuisine libanaise du ghetto et du ghetto de l'ethnicité, en fait. C'est-à-dire, on doit entrer dans un restaurant libanais, les nappes doivent être mises d'une certaine manière, le menu doit être écrit d'une certaine manière. Le serveur, à l'origine, je parle aujourd'hui, heureusement ça a changé, était un grand garçon bien habillé avec un nœud papillon et relativement arrogant.
Avec les cheveux grisonnants et les yeux bleus en général.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et heureusement. Et j'ai toujours voulu dire non, pas du tout. On est une cuisine comme une autre. Et je voulais qu'en France aussi, quand on ouvrait un restaurant, on n'est pas obligé. En France, voyez, vous avez des restaurants dits français, mais en fait, ils ont souvent rien de français, sauf qu'ils sont en France et qu'on n'aura pas mis une ethnicité particulière. Et je trouve que la cuisine, avant tout, ce sont des produits et un partage. Donc, la présence d'un chef ou de personnel en salle ou des clients eux-mêmes donne la réalité de cette cuisine, donne l'identité de cette cuisine. La manière de consommer, c'est ce qui donne l'identité de la cuisine. Donc on n'a pas besoin
d'en rajouter du folklore.
Oui, voilà. Et puis le bon goût et les saveurs n'ont pas de frontières, de toute façon.
Tout à fait. Et puis il faut développer. Il faut savoir que la restauration libanaise que l'on connaît, on la connaît pourquoi ? On la connaît pour une raison assez triste. On la connaît grâce, c'est horrible à dire, ou à cause de la guerre.
De la guerre, oui.
C'est la guerre qui a fait sortir des gens. Mais des gens qui n'étaient pas cuisiniers. C'est comme si n'importe qui aujourd'hui émigrait de France et se mettait à ouvrir des bistrots, mais sauf que le gars était avocat, était comptable, était tout ceci.
C'est ce que nous expliquait Alan Jeham récemment. Qui a quitté Liban également pour...
Tout à fait, qui lui est sorti
pour les mêmes réseaux
d'ailleurs. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec des cuisines qui ont été mises en place, mais pas par des chefs, pas par des cuisiniers, des gens qui se sont mis là et qui ont fait ce métier comme ils ont fait tout autre chose. Ce qui a fait de la qualité, ce qui a fait découvrir, ce qui a fait connaître, bien sûr, mais de l'autre côté, ce qui a empêché toute évolution. En cuisine libanaise, je me suis très vite retrouvé attaché, bloqué complètement, parce que il y avait même des produits qu'on n'avait rien le droit de toucher. Un houmous, c'était un houmous. Il y avait du pois chiche, il y avait du citron, il y avait du tahiné, il y avait du sel. On se battait pour savoir s'il fallait mettre une demi-gousse d'ail ou non. On avait l'impression que c'était la grande discussion philosophique de l'époque, mais ce n'était absolument pas le cas. On ne pouvait justement jouer avec tout le reste.
Bien, on a un chef qui parle aujourd'hui, quand on dit que les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Karim Haïdar est notre invité jusqu'à 13h.
Les exploits du chef revient dans un instant. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef voilà sur Beurre FM.
Avec Selma Manuel Mariani et notre invité aujourd'hui, nous recevons un chef atypique, Karim Haïdar. Est-ce que ça vous va, chef atypique, et est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez et que vous mettez même en avant?
Bonne question. En fait, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Oui, sûrement un petit peu atypique. Atypique, bien sûr, par le parcours. Et aussi, sans doute, parce que je présente et par le fait que, oui, je suis... Non, en fait, pas si atypique que ça. Je pense que la plupart des chefs aiment ça, aiment toutes les cuisines, aiment faire partager, aiment découvrir. Non, je ne crois pas. Je pense que je suis juste atypique parce que j'aime bien dire que je suis cuisinier et pas chef.
Il y a toujours le mot partage dans tout ce que vous dites et même dans ce que je lis sur vous. Et c'est ce qui vous a amené à ouvrir l'Académie de la cuisine arabe. C'était quoi les objectifs? Comment s'y inscrire? C'est quoi l'idée au juste?
Alors en fait, le partage, oui, le partage toujours, parce que le partage c'est la cuisine, le partage c'est la nourriture et c'est, je pense que c'est la base de la vie et c'est pour ça que c'est la base de la vie, la cuisine. Et je suis très content justement dans ce nouveau métier de reconversion, d'être au cœur de la vie, au cœur de chaque instant, puisqu'on mange quand même, enfin, généralement, quand on se nourrit bien, au moins 3 fois par jour. Donc, je suis content d'être au cœur de ça.
Quand on s'en nourrit trop, ça.
Non, ça, c'est quand on se nourrit bien.
Comme Manu, je ne fais que deux repas par jour.
Alors, Manu, heureusement que Manu ne fait pas 3 repas par jour.
Ah oui, ce serait dramatique.
Vous n'essayez pas les petits déjeuners, Manu?
Non. En général, quand je me réveille, j'ai plus très très faim déjà.
Quand il est à Lyon seulement. Enfin, là, il fait un petit déjeuner lyonnais, ça lui ouvre l'appétit.
C'est ça. Je mange de la cervelle des canuts au petit déjeuner. Non, mais il n'y a pas de cervelle. Je vois Selma faire la grimace. Non, c'est du fromage frais avec de l'échalote et des herbes.
D'accord.
C'est très bien. Et alors, l'académie, c'est autre chose. L'académie, c'est effectivement un constat, c'est les choses dont on parlait un petit peu au début, c'est que dans le monde arabe en général, pour moi, il y a à la fois un très grand respect et un manque absolu de respect de la cuisine. Un très grand respect, pourquoi ?
C'est un paradoxe.
Parce que c'est un grand paradoxe, parce que c'est la maman qui fait la cuisine, donc bien sûr on respecte ce qu'elle fait, bien sûr on adore les plats qu'elle fait. On en parle d'une manière incroyable. Et si vous saviez, ma mère, elle fait ça très bien. Et là, je parle de l'océan Atlantique jusqu'au Levant. Hein. Toute la région, c'est pareil.
Oui, c'était ma question, parce que vous faites cette académie pour défendre la cuisine et les saveurs du monde arabe. C'est le monde arabe au sens large, incluant le Maghreb.
C'est le monde arabe qui va du Maghreb jusqu'à, en fait, à l'extrême est, Oman. Et au sud, le Soudan. D'accord. Donc on va vraiment très très loin.
Le monde arabe au sens
large. Le monde arabe au sens large de la langue arabe. Et en fait, ce constat... Alors pourquoi le respect, on a compris. Pourquoi l'absence de respect, c'est... Vous vous rendez compte, au Maghreb, ces personnes, elles roulent le couscous à la main. Et vous vous retrouvez avec une plâtrée de couscous comme ça, et les 3/4 du couscous... finissent, on ne sait pas où, tout le monde s'en fout, on mange sa petite assiette vite fait, on s'en va.
Pas de respect.
Pas de respect. Chez nous, on fait des feuilles de vigne par-ci. Vous vous rendez compte, on roule les feuilles une par une. Les chefs français avec qui j'ai travaillé, quand je leur montre ça, ils me disent, mais t'es complètement fou. On ne peut pas mettre 20 feuilles de vigne roulées une par une dans une assiette, sauf à la vendre 100 €. Mais nous, on fait. Et on ne la vend pas grand-chose. Et les gars, ils laissent les 3/4 des feuilles de vigne sur le plat parce qu'on oublie tout le travail qu'il y a derrière.
La cuisine des femmes, c'est beaucoup de temps.
Qu'on ne respecte pas réellement à sa juste valeur. On se pose à table, on mange, on se dit que c'est superbe. On ne sait absolument pas comment c'est fait. On n'est pas vraiment intéressé par le fait de le savoir. Et de ce fait, cette cuisine-là, parce qu'elle n'est pas respectée, il y a très peu de chefs arabe, chef à proprement parler, des gens dont c'est véritablement le métier. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui se mettent à étudier la cuisine pour le faire, le font parce que c'est un métier comme un autre qui peut rapporter de l'argent très vite et n'ont strictement aucune passion. Et ceux qui se passionnent, voyant que d'un côté, il y a la cuisine du monde arabe, qui est une cuisine de maison pour eux, c'est la cuisine des mamans, c'est pas intéressant à faire comme métier, et la cuisine française, japonaise, italienne, qui sont des cuisines de métier, divergent là-dessus. Donc vous avez aujourd'hui des chefs arabes qui peuvent avoir une étoile au Michelin, mais sur de la cuisine française ou italienne. Mais vous n'en avez aucun qui n'ait même envie de le faire sur une cuisine véritablement du monde arabe et de développer. Et je me suis dit, mais c'est un grand saccage, parce qu'il y a dans la cuisine du monde arabe énormément de richesses, énormément de traditions, des techniques incroyables. Lorsque je parle avec des chefs de très haut niveau français et que je leur explique comment on fait certaines choses, ils disent « Ah oui, c'est incroyable, je vais essayer des produits incroyables ». Mais tout ça reste à l'intérieur des maisons et à l'extérieur, on a juste mis les petits restaurants libanais qui servent d'excuses et marocains. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît
la cuisine libanaise. Et algérien, il y en a très très peu. Si vous cherchez voilà un restaurant où vous voulez manger de la cuisine algérienne, vous avez les brochettes, mais il n'y a pas le restaurant de.
Avec... Il y en a très très peu. Pareil, il n'y a pas de cuisine palestinienne, il n'y a pas de cuisine jordanienne.
Ça commence.
Il y a un peu de syrienne maintenant, grâce à cause de la guerre, mais on ne va peut-être pas attendre une guerre dans chaque pays pour exporter les cuisines. La cuisine omanaise est d'une richesse incroyable. La cuisine séoudienne, moi, à un moment, je me suis dit, bon, la cuisine séoudienne, comme tout le monde, je me suis dit, bon, ça doit être des agneaux, du riz, des dattes et du lait. Et je me suis retrouvé à faire des émissions de cuisine sur la cuisine saoudienne, avec des différences de terroir Mais est-ce que vous imaginez l'Arabie saoudite, des terroirs, des régions, des produits différents, des manières de consommer différentes, en fonction de si vous êtes sur la mer... Après tout, c'est logique. En fonction de si vous êtes sur la mer Rouge ou si vous êtes sur le Golfe, c'est absolument pas la même cuisine. Si vous êtes en plein milieu de l'Arabie saoudite, à côté de Riyad, où là, c'est le vrai désert absolu, c'est pas la même cuisine qu'à Médine ou à la Mecque, où vous avez eu plein de pèlerins qui sont passés, qui ont ramené leurs traditions culinaires, qui les ont souvent laissées sur place. Donc, il y a une richesse incroyable. Alors, cette richesse... n'est pas mise en avant parce qu'il n'y a pas de chef pour la mettre en avant, il n'y a pas d'unité. Les gens qui parlent et qui s'intéressent à la cuisine sont souvent de ce monde un peu européen, asiatique, et ils parlent de cette cuisine souvent sans rien savoir. Et ils écrivent, je ne sais pas, ouvrez le Larousse gastronomique, un ouvrage magnifique.
Ça, c'est votre premier ouvrage de cuisine.
Le Larousse,
ah, c'est une Bible, ça devrait s'appeler la Bible de la gastronomie.
C'est fou, t'imagines, oui.
Mais il est truffé d'erreurs.
Ah oui, il y a beaucoup d'erreurs, mais c'est là où on trouve le maximum de base de cuisine française, en tout cas.
Voilà, mais sur la cuisine arabe, il est truffé d'erreurs. Pourquoi il est truffé d'erreurs? C'est pas la faute de ceux qui ont écrit dedans. C'est notre faute à nous, les Arabes en général, de ne pas avoir qui que ce soit qui puisse être une référence, qui puisse expliquer c'est quoi ce plat, pourquoi, comment. C'est ça que nous avons voulu faire. Nous avons voulu identifier ces cuisines du monde arabe, identifier les plats de ces cuisines-là, notamment dans le cadre d'un grand dictionnaire de cuisine du monde arabe, sur lequel on est en train de travailler, entre autres. Nous avons voulu promouvoir cela, j'espère, avec un festival, sans doute à l'Académie, à l'Institut du monde arabe, un grand festival de cuisine du monde arabe, puisque Jacques Lang nous a fait l'honneur de parrainer l'Académie de cuisine du monde arabe. Après, nous voulions aussi protéger, parce qu'aujourd'hui, vous voyez partout des mots de cuisine arabe. Vous voyez du houmous, mais dans lequel il n'y a pas de pois chiche. Mais le houmous, ça veut dire pois chiche en arabe. Donc un houmous sans pois chiche, il y a un problème là-dedans. Un houmous, c'est pas juste une purée, c'est pas un dip. Aujourd'hui, ça ressort. Et ça, nous voulons créer une veille qui permette de venir dire à chaque personne qui écrit houmous, attention, houmous, ça veut dire quelque chose. C'est comme un cassoulet sans haricots, quoi.
Oui, voilà, changer le nom, dire voilà. J'ai fait des lentilles façon houmous, quoi.
Voilà, on peut faire ça, mais à ce moment, c'est des lentilles façon. Moi, personnellement, je fais des haricots blancs façon houmous, mais façon, c'est autre chose. Et donc, c'est très important de pouvoir le dire. Les falafels, maintenant, n'importe quelle croquette s'appelle des falafels, mais les falafels, il y a quelque chose, c'est des mots d'origine arabe.
Il y a des gens qui croient que le falafel est un sandwich, par exemple.
C'est forcément du pois chiche.
Voilà, c'est du pois chiche et de la fève. Voilà. Et il y a ces différences-là. Et à la fin, effectivement, parce que là, le projet devient énorme, et c'est le projet d'une vie pour moi, cette académie de cuisine devra avoir une véritable école, à la fois pour les professionnels, et là, j'aimerais, et ça sera ma grande fierté, le jour où les personnes qui vont vraiment apprendre la cuisine, mais sur un programme de cuisine du monde arabe. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans une école hôtelière au Liban, en Syrie, en Égypte. La première chose qu'on vous apprend, c'est l'émulsion, comme en France, en cuisine. Mais on vous apprend l'émulsion de quoi? De la mayonnaise. On ne fait pas de mayonnaise, nous.
C'est le premier cours qu'on fait dans les écoles hôtelières. On apprend le taillage des légumes et on apprend la mayonnaise parce qu'on fait le premier cours qu'on fait en école hôtelière ou au CAP, c'est la macédoine de légumes.
Voilà, tout à fait.
On apprend le taillage des légumes.
Personne ne mange d'ailleurs.
La cuisson à blanc et la mayonnaise.
Exactement. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on apprendrait la mayonnaise comme émulsion alors que nous avons des émulsions que les chefs libanais, les chefs arabes en général, ne savent pas faire?
Le houmous,
c'est une émulsion. La purée d'ail que vous appelez la sauce à l'ail que vous trouvez dans les snacks libanais, c'est une émulsion. Et moi, ce que je voudrais, c'est un programme où on commence par nos produits. Bien sûr qu'on apprendra la mayonnaise après, mais en langue étrangère, on va dire. Et on apprendra les modes de cuisson, mais nos modes de cuisson. On apprendra au lieu d'apprendre la découpe du bœuf, on n'a pas tellement de bœuf, on n'utilise pas la viande de bœuf tant que ça. On apprendra la découpe de l'agneau. Et c'est bizarre parce que dans nos écoles hôtelières, alors que nous, le gigot d'agneau, on le divise en 6 ou 7 morceaux différents. Mais ils n'apprennent pas ça. Et je voyais mes chefs arriver, des gars qui avaient fait 3 ans d'école hôtelière, qui avaient 5 ans de cuisine, ils arrivaient et ils ne savaient pas détailler un gigot d'agneau. Et donc il fallait leur dire, oui mais ce morceau c'est le filet, ce morceau c'est ceci, c'est... ah oui d'accord, et il faut leur apprendre. Mais c'est bizarre, vous avez fait 3 ans d'école hôtelière à Damas et vous ne savez pas faire ça. Ça veut dire que cette école est une école faite par les Européens pour la cuisine européenne. Elle vous attire vers la cuisine européenne. Et chaque fois que vous avez un chef arabe qui veut faire un truc un petit peu développé, hop, il recourt tout de suite à la fusion. Il a besoin d'aller vers un produit européen, vers une manière de faire européenne, au lieu d'aller de son cœur vers l'extérieur, comme fait un chef français.
Mais vous avez fait les deux. Vous avez fait le CAP en France, et après vous êtes allé vous approprier les recettes sur le terrain.
En fait, bah, moi je suis aussi un petit peu autodidacte, parce que j'ai fait le CAP qui, voilà, comme Manu sait, n'apprend pas grand-chose. Mais bon,
apprend c'est surtout aussi la pratique.
Voilà. Ça apprend à nettoyer sa planche, qu'il faut nettoyer sa planche et nettoyer son plan de travail tout le temps.
On apprend les normes HACCP surtout. Mais
voilà. Donc on apprend des choses intéressantes. Mais au-delà de ça, ça a été la première fois que je suis rentré dans une cuisine. Effectivement, j'ai été au Liban, on m'a appris des recettes, j'ai voulu faire des choses très particulières.
Mais quand vous dites j'ai appris au Liban, vous avez appris auprès de qui ?
De gens de la famille, parce que finalement, d'accord, qui cuisine le mieux au Liban, ce sont
les femmes.
Les mamans, les femmes. Donc
les grands-mamans aussi, souvent. Voilà. On parle des mères, mais il y a les grands-mères aussi.
Tout à fait. Ouais. Alors, malheureusement, je me suis mis à la cuisine, on va dire, à ce moment-là. Je n'avais plus ma grand-mère, qui était une artiste absolue de la cuisine. Et je pense, d'ailleurs, l'ouverture sur la cuisine, parce que elle beau être ma grand-mère, elle découvrait tout. Chaque fois qu'elle entrait dans un restaurant, elle voulait connaître la recette. Elle ramenait, elle réessayait chez elle la même chose, d'où que ça vienne. Elle ramenait même les produits qu'elle ne mangeait pas, pour nous les faire goûter. C'est ma grand-mère quand même qui ne buvait pas d'alcool qui m'a fait boire mon premier verre de vin. Elle m'a commandé un verre de vin au restaurant et je lui dis mais pourquoi, j'avais 13 ans. Je lui dis mais pourquoi, elle me dit bah, il faut que tu goûtes. Je lui dis mais toi t'en bois pas. Elle me dit oui, mais c'est pas grave, il faut quand même goûter et savoir. Donc ça c'est quand même la très belle ouverture et ça vous aide à découvrir. Donc j'ai appris tout ça, j'ai ramené, j'ai ouvert un resto en croyant que c'était comme la maison. Et je suis sorti en larmes de mon premier service, puisque j'étais tout seul en cuisine, avec une vingtaine de brûlures et de blessures de partout, à 3h du matin, en me disant comment je fais pour ouvrir demain.
La cuisine en champ de bataille, les frigos vides.
Voilà.
C'était l'hiver à Pékin, subitement.
Voilà, tout à fait. C'était au moins l'hiver à Pékin et un hiver très, très froid.
Excusez-moi, je vous ai interrompu. Il y a beaucoup, il y a d'autres personnes, d'autres chefs qui adhèrent à votre projet d'académie, parce que c'est un projet. Enfin, j'ai l'impression que c'est un projet qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est un projet de vie, c'est un projet de génération même. Rapport à cette cuisine du monde arabe qui est très 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 riche justement, et vous essayez vraiment de la mettre en valeur et de la mettre, de la faire découvrir autrement.
Oui, je pense il y a beaucoup de chefs qui
vous
sont
avez des
intéressés.
Retours.
Bien sûr, j'ai avec nous dans l'académie, donc déjà on a pas mal
elle
de chefs.
Elle est basée
chefs,
où déjà sont, cette académie?
L'académie n'est basée nulle part. Puis, enfin, elle est basée à Paris, mais elle est basée nulle part. Elle a pas de locaux pour le moment.
Mais ça va venir.
Bien sûr, ça viendra. Il faut simplement qu'on y donne tous un peu de temps. Moi, j'y donne du temps, mais bon, quand on a du temps aussi, c'est la difficulté de toutes ces opérations très bénévoles. Mais on est plusieurs à vraiment préparer les différentes choses qui vont nous permettre d'avancer. Et je suis sûr qu'on va y arriver parce que tout le monde y a intérêt véritablement. Et on a intérêt à avoir les éléments de cette cuisine et les éléments de cette cuisine figée. Aujourd'hui, vous avez des recettes figées. Ben, on parlait du Larousse gastronomique. Vous allez sur des recettes françaises ou de la cuisine italienne ou même de la cuisine chinoise. On sait ce qu'un mot veut dire. Vous parlez de cuisine arabe, on ne sait pas.
Bien, on verra ce que veut dire le mot kébé dans un instant.
Les exploits du chef, revient dans un instant. Revient dans un instant. Revient dans un instant. Les exploits du chef avec Philippe Robichon et le chef Voilà sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Alors Manu, nous recevons aujourd'hui Karim Meydar, ex-avocat reconverti dans la cuisine. C'est quelque chose de fréquent dans le milieu de la gastronomie, ce genre de changement de vie ou pas ?
Oui Philippe, je dirais même que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus souvent, surtout chez les trentenaires en général. C'est un peu l'âge de la maturité pour changer de voie.
Alors, chef cuisinier, c'est un métier qui est devenu à la mode, ou redevenu à la mode.
Oui, on peut le dire. Si pendant longtemps, l'école hôtelière, dont on parlait tout à l'heure, c'était considéré comme une voie de garage pour les mauvais élèves, le succès des nombreuses émissions culinaires et des concours de cuisine à la télé, comme Top Chef ou Master Chef, ont permis de découvrir les coulisses de ce beau métier au point de le rendre tendance. Si autrefois, on devenait souvent cuisinier par défaut ou par nécessité d'apprendre un métier, tout simplement, aujourd'hui, c'est devenu une vraie vocation pour certains.
Oui, ce qui veut dire qu'en définitive, tout le monde peut décider de devenir cuisinier du jour au lendemain.
Bah, non, pas tout à fait quand même, parce que entre les envies ou les rêves et la réalité du métier, vous en parliez tout à l'heure, Karim, il y a un énorme fossé que ces fameux concours de cuisine télévisée ne montrent pas totalement. Déjà, faut avoir un minimum de prédisposition, donc le goût, la créativité et le talent, ça s'apprend difficilement. Et puis le petit monde de la cuisine est devenu tellement médiatisé que beaucoup de jeunes pourraient penser que le métier de chef est un monde tout rose avec la célébrité, les paillettes en option. Mais outre le goût, la créativité et le talent, c'est surtout aussi un métier très dur qu'il faut souvent pratiquer 14 heures, 16 heures, voire 18 heures par jour. C'est pas vous qui me contredirez. Hein, pour réussir, faut travailler beaucoup. L'autre jour, il y a un grand chef qui me disait ironiquement, dans la cuisine, on est bien passé aux 35 heures, mais par jour, pas par semaine. Mmh. Vous voyez, donc la cuisine, c'est une profession qu'on compare souvent à un art, ce qui est vrai, mais c'est aussi avant tout un métier très physique.
Et avant tout, une vraie vocation.
Ouais, et même si la vocation peut apparaître tardivement, il y a un minimum de prédisposition à avoir, comme je le disais. Comme vous l'avez compris, il faut d'abord être courageux et tenace. Ensuite, il faut être curieux et il faut avoir constamment envie d'apprendre. Il faut avoir comme précepte ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mmh. Il faut être organisé, il faut être persévérant, puis il faut aussi avoir un bon palais et aimer goûter encore et encore un même plat pour l'améliorer jusqu'à le rendre exceptionnel.
Et il y a beaucoup d'exemples de reconversion alors de chefs et couronnés de succès.
Bah déjà, on en a un sur le plateau avec Karim, mais il y a quand même beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Mais il y a certains exemples remarquables. Je pense par exemple à Bruno Verju, qui était un confrère quand je l'ai connu, puisqu'il était critique gastronomique et auteur, mais auparavant il a même également fait 5 années de médecine. Il a été photographe de pub, donc il a pas mal bourlingué. Ouais. Mais aujourd'hui c'est un des plus talentueux représentants de la nouvelle vague de la cuisine française. Dans son restaurant qui est proche du marché d'Aligre, qu'il a tout simplement appelé Table, il prépare une cuisine assez instinctive mais vraiment remarquable, toujours axée autour du produit. Hein, de la naturalité du produit qui est sublimé et respecté. Un peu à la façon du grand chef Alain Passard, le grand spécialiste des légumes, dont il s'est, à mon avis, beaucoup inspiré.
Ouais, alors le débat, c'est pas de savoir si le marché à Ligre, c'est le meilleur marché de
non,
Paris.
Pas aujourd'hui.
Alors parlez-nous un peu de son restaurant.
Alors, pour décrire son restaurant, faut d'abord décrire le personnage. C'est un homme raffiné et cultivé, avec un look de dandy moderne. Alors, on peut le voir parfois avec un pantalon rouge écossais à carreaux, un grand chèche coloré, etc. Bon. Et il a le don de
Il n'a pas de bretelles.
Non, aussi, ça pourrait
Karim,
être son style.
Karim, on en a aujourd'hui, des bretelles.
Ouais, Karim a des bretelles. Il fait un peu dandy moderne aussi.
Voilà, c'est la nouvelle tendance.
Le dandy
vous allez
du
voir.
Liban. Voilà. et Bruno Verju, il a le don de mettre en scène les repas de façon un peu théâtrale parce qu'il cuisine derrière un comptoir tout en longueur à la vue des clients. Et quant à sa cuisine, bah, comme je vous le disais, elle est totalement axée autour des produits bruts. Bruno Verju, il cuisine pas au sens classique du terme. Il sélectionne des produits d'exception et il se contente ensuite de les sublimer avec une cuisson parfaite ou avec un mariage de saveurs surprenant.
Bien, alors quelques exemples.
Bah, lors de mon dernier déjeuner chez Bruno Verju, il avait par exemple préparé des coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc accrues, marinées avec une huile d'olive non filtrée de Teruelle et des agrumes. Ou bien un gros tronçon de sole de l'Île-Dieu grillé au beurre de vache rouge des Flandres. C'est une espèce de vache qui est réputée pour son lait, mais qui est malheureusement en voie de
disparition. Ils ont travaillé les titres, hein, je ne vais pas dire.
Oui, tout à fait. Ouais. Avec un poireau plançon grillé et une purée de chou-fleur au gingembre. Alors le poireau plançon, c'est un petit poireau d'été, qu'on appelle parfois le poireau crayon, quand il est petit. Sinon, qu'est-ce que j'avais goûté d'autre? Oui, ce jour-là, il cuisinait également une très bonne poularde de la ferme des Grands Champs, rôtie aux agrumes, avec une mousseline de pommes de terre infusée de flouve odorante. Est-ce que vous savez ce que c'est que la flouve odorante, Philippe?
Non.
Alors, la flouve odorante, c'est une graminée qui pousse dans le foin, et c'est ça qui donne cette odeur caractéristique au foin.
Bien, le prix, l'adresse.
Alors comme je le dis toujours,
comme ça, une fois qu'on reviendra du marché à Ligre,
voilà, après vous pourrez absolument aller déjeuner chez Table.
Ouais.
Donc comme je le dis toujours, les produits d'exception et le talent, c'est pas gratuit, donc faut compter quand même entre 50 et 60 euros si vous mangez à la carte pour un sublime repas. Mais il y a aussi deux très belles formules, hein, en sortant du marché d'Aligre à 13h, à 25 et à 29 euros au déjeuner.
Oui, c'est mieux déjà.
Voilà. Mais si vous voulez vraiment découvrir toute l'étendue du talent de Bruno Verju, n'hésitez pas à casser la tirelire pour son magnifique menu dégustation à 89 euros. Le restaurant Table est fermé le samedi midi et le dimanche, et c'est aux 3 rues de Prague, dans le 12e arrondissement.
Alors on verra tout au long de l'année des exemples de reconversion réussie. Je vous posais la question tout à l'heure, Karim, de savoir d'abord ce que c'était qu'un kébé et combien de sortes de kébé existent-ils?
Alors, ça c'est une très bonne question et en fait, ça me rappelle que mon premier restaurant, donc l'automne à Pékin, je l'avais appelé aussi Bar à Kébé. En bas, j'avais un bar et je l'appelais Bar à Kébé.
Kébé, c'est les boulettes à la viande, c'est
alors,
ça.
Alors voilà, ça c'est, non, d'abord, c'est ce qu'on lançait. Alors
c'est qu'est-ce que c'est ce le qu'on croit. Alors, moi c'est l'image que j'en ai.
Et alors le Kébé, c'est plus complexe que ça déjà.
C'est une base libanais.
Non, c'est du beurrol. La base, c'est le beurrol, le boulgour, donc en fait le blé concassé étuvé fin. Qui est intégré dans une pâte.
Alors, moi, je parle de la farce, alors qu'en fait, le Kébé, c'est le tout, ce qu'il y a autour.
Non, alors, ce qu'il y a autour. L'ensemble, c'est le Kébé. Le Kébé, en fait, c'est ce beurre roll avec quelque chose, un deuxième ingrédient. Alors, bien sûr, viande, c'est le plus connu, c'est celui que vous avez partout, généralement de la viande d'agneau, même si aujourd'hui, ils utilisent tous du bœuf. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être un légume. Ça peut être un poisson.
Oui, il y a des kébés aux épinards, par exemple.
Alors, non. Alors là, on est en train de parler farce.
Ça, c'est encore différent. D'accord.
Souvent, vous avez... Alors, les kébés classiques connus, c'était soit la viande, soit au potiron, soit la pomme de terre. D'accord. On va dire, ceux-là, c'est ceux qui existaient au Liban, qu'on peut retrouver à droite, à gauche. Mmh. Et on peut les faire de différentes manières. Il y a cette forme de boulette que vous connaissez, qui est farcie, qui est généralement frite, parfois grillée. Il y a aussi... il y a le kébé qu'on mange surtout à l'agneau qui est cru, qui peut être mangé cru. Donc là, on parle du tartare d'agneau dont parlait Philippe tout à l'heure.
Oui, ça c'est beau. C'est particulier, mais c'est bon.
Voilà. Après, il y a d'autres mélanges qui peuvent se faire. Mais la base, elle est là. Et la chose la plus intéressante sur le kébé, en dehors de cette variété, et il faut savoir, Philippe et Selma, parce que vous m'avez posé la question de l'arrivée à la cuisine, je pense que ce qui m'a fait me spécialiser, parce que je n'aimais pas la cuisine libanaise. C'est pas que je ne l'aimais pas, mais c'était la cuisine de la maison de tous les jours. Donc pour moi, elle était lassante, elle était ennuyante, etc. Et c'est avec la cuisine française, la cuisine chinoise, la cuisine japonaise, je me suis dit, ah waouh, il y a des choses incroyables qu'on n'a pas à la maison. Et ce qui a fait tilt dans ma tête, parce que j'ai toujours mangé ce kébé de viande frit qu'on retrouve dans tous les restaurants, dans tous les snacks libanais, farcis, etc. Les autres kébés avaient un peu disparu. Et un jour, ma grand-mère, l'autre grand-mère, qui cuisinait très bien aussi, ma grand-mère paternelle, nous a fait des kébés grillés au barbecue avec une farce totalement différente. Alors, c'est une farce à base de gras d'agneau, de sumac, d'oignons, d'un petit peu de piment. Et c'était magique.
Ah ben rien que déjà dit comme ça, ça a l'air délicieux.
Et je me suis dit, enfant, waouh, ça c'est bon. Et pourquoi est-ce qu'on mange pas ça plus souvent et que l'autre Québec qui est très bon aussi, mais
j'ai jamais mangé ça dans un restaurant les années en France.
Et ensuite, quand j'étais à Paris, un jour, une de mes tantes m'envoie des Québés et c'était des Québés de potiron. Et là, je me suis dit, mais il y a une richesse incroyable dans le Québec. Je veux faire connaître le Québec. Et j'étais en train de penser ouvrir un restaurant. Et je me suis dit, je vais ouvrir un restaurant libanais, montrer que la cuisine libanaise, ce n'est pas ce que tout le monde croit. On peut faire autre chose.
On peut faire autre chose que les mezzés.
Et on peut faire des kébés.
On peut faire une carte entière uniquement avec des kébés, quoi.
Voilà. Ouais. Et j'avais fait, justement, c'était un petit peu l'idée, parce qu'après, je me suis rendu compte qu'il y avait des ragoûts à base de kébés, qu'il y avait différentes manières de le consommer. Et puis, petit à petit, comme on dit, on peut faire évoluer les choses et on peut juste poser la question. Si je mélange de l'agneau, ça me rappelle une petite anecdote très importante sur l'histoire du Liban. Le Kébé est le plat national libanais. Et sans doute d'une partie de la Syrie et du nord de la Palestine. Et c'est un plat socialement très intéressant. Parce que c'est le plat du pauvre et le plat du riche. Ça permet, en fait, c'est le ciment. C'est le ciment de cette identité de la région.
C'est transversal à toute la communauté.
Mais avec une petite différence. Les riches mettent 90% de viande dans la pâte et 10% de boulgour.
D'accord.
Et les pauvres font le contraire. On arrive parfois à mettre 0% de viande.
D'accord.
Mais tous les matins, ils peuvent dire « Qu'est-ce que vous avez mangé hier du kébé ? Moi aussi. » Et donc, ça permet finalement d'être véritablement le ciment social du pays. Mais ce kébé, je disais, je me suis dit « Mais pourquoi ? Si on met de la viande, je mets du potiron, mais en fait, je peux mettre autre chose. » Et puis le kébé de viande farcie, pourquoi est-ce que je dois le farcir que d'oignons, de pignons, de pain et de viande hachée ? Je ne peux pas le farcir d'autre chose, bien sûr que si. Et c'est là que le monde des possibles s'est ouvert devant moi.
La fusion arrive.
On peut tout faire. Mais ce n'était même pas de la fusion, c'est nos produits à nous. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre le zaatar qu'on connaît très bien dans nos régions dedans ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je mangeais enfant ? Quand il faisait des kébés devant nous, pour nous donner tout de suite un kébé, au lieu de nous mettre de la farce de viande, il nous mettait du labné, du fromage blanc dedans, le faisait frire pour les enfants et nous le donnait.
D'ailleurs,
Non, alors voilà. Selma, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut aller manger la cuisine de Karim?
Oui, justement, j'allais dire, en fait, si on veut goûter à cet excellent large choix de kebbe, il suffit juste de se rendre au nouveau restaurant, le dernier né de Karim Haidal, qui s'appelle le Askini. Askini qui veut dire en arabe Eskini, donc servez-moi à boire, mais de l'eau pour moi.
Tavernier à boire.
Exactement, et qui se trouve au 195 de la rue Saint-Maur, c'est bien
tout
cela.
Tout à fait.
Et là-bas, tous les jours, à midi, on a le droit à des kebbe différentes, entre autres, c'est ça?
À midi et le soir, en fait, comme disait Manu tout à l'heure, pour du restaurant de La Table,
oui.
On a le même esprit, c'est-à-dire nous avons une cuisine totalement ouverte, mmh. avec un comptoir, donc comme les restaurants japonais et les bars à sushi, vous pouvez vous asseoir au comptoir et on fait les kebbe, je pense qu'on n'a pas l'habitude de voir faire dans une cuisine directement, devant vous.
Comme dans les bars à sushi.
Voilà, sauf que là on fait les kebbe devant vous.
C'est un petit peu la même forme qu'un sushi, on roule ça dans la main, j'imagine.
Tout à fait,
les kebbe,
tout à fait. Donc c'est véritablement un très beau travail, c'est un travail presque de potier. Qu'on fait devant le client, qu'on sert directement au client, et tous les jours, suivant l'inspiration du moment, on fait des kebbe différents. Donc ça peut être, hier j'avais des kebbe de poulet avec deux farces différentes, un kebbe de potiron, avant-hier j'avais un kebbe de gambas. Il peut m'arriver d'avoir toutes sortes de kebbe. On a même essayé un kebbe de pois cassé récemment. Donc on travaille cet ensemble-là. Mais ce qui est très important sur Askini, qui est serment à boire et donc qui est destiné aussi beaucoup à la boisson, c'est que c'est une autre transversalité que j'ai cherchée. En fait, vous vous êtes rendu compte peut-être que de la cuisine libanaise, j'essaye d'aller ailleurs.
Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, hein, vous avez écrit plusieurs livres de cuisine. Vous avez Saveur libanaise, miroir de la diversité, Tout au barbecue et Cuisine libanaise d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont tous chez Albin Michel, donc vous pouvez lire ces livres pour avoir une idée de la cuisine que fait Karim. Merci d'avoir été avec nous. Merci Selma, merci Manu,
merci.
Et à la semaine prochaine.
Merci Philippe, à bientôt.
Au revoir.
C'était Les Exploits du Chef avec Philippe Robichon et le Chef Voilà.
Chef Voilà.
Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Sur Beurre FM.